Là tu semblais aussi fade sans elle.
Tu capes.
J'attendais une étincelle.
Speaking.
Un appel, un matin, elle s'est penchée vers moi. M'a dit mais pour quelle raison on ne se parle pas. Peut-être ne m'aimes-tu pas.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 22 février 2014. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport.
Les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, de la, des sports de glace et de la neige. À 15h du reggae avec Jadot Dead, 17h. FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le magazine sur les failles temporelles que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Les infos.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi 15 février, toujours 100 000 personnes privées d'électricité en Bretagne, une nouvelle salle de spectacle dans le centre-ville de Toulouse, et nous serons en direct dans ce journal du Salon du Chocolat à l'Union.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geek en modulation de fréquence analogique. Avec, dans cet épisode, du sport, ultimatum, et d'Ascrit. En direct des studios de Radio FMR.
De la sécurité civile, je sais pas.
Ouais, il y a les sirènes là.
Donc, on vous explique, la semaine dernière, on n'était pas là.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Ultimatum. Bonjour du sport.
Bonjour, Astrid. Bonjour à tous nos auditeurs.
Voilà. On s'explique. Ce que vous avez entendu en intro, en fait, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est pour ça qu'on n'a pas fait émission. C'est que tout simplement, j'avais complètement zappé. Pendant 24 heures, les étudiants de l'école de journalisme de Toulouse, ceux qui sont en première année d'ailleurs, il me semble, ont transformé Radio FMR en radio d'information continue pendant 24 heures. 24 heures non-stop. C'est-à-dire que pratiquement...
France
les...
Info, quoi.
Voilà.
Sauf que France Info, la nuit, les flash infos sont préenregistrés. Et là, c'était même pas le cas. C'est-à-dire les magazines sont poursuivis une bonne partie de la nuit. Il y a eu du sport à 21h. Il y a eu...
Non, j'étais pas là, moi.
Pardon. Il y avait un excellent sujet à 11h sur le dessous des Jeux de Sochi. À midi, il y avait eu un programme culinaire à midi 15. Donc du coup, c'est vrai que les années précédentes, en fait, on avait pris le programme en cours. Là, on les a laissés pour le plaisir. Le programme était franchement qualitatif et primo, ça a changé. Pourquoi ? Parce que à Toulouse, on n'a pas de radio d'info continue locale. Il y a France Bleu, il y a Radio Toulouse, mais voilà, là c'était un format purement news qui était plutôt bien. C'est clair, c'était des, ils étaient encore relativement jeunes et tout ça, mais franchement, le niveau qualitatif était énorme. Il y avait une belle couverture dans le centre de l'actualité.
C'était préparé, vérifié.
J'ai écouté pratiquement 3h, 4h non-stop. J'ai fait, ok, nickel, rien à redire.
Alors, amis journalistes qui nous écoutez aujourd'hui, s'il y en a, sachez que Xavier n'est pas parfois est avare sur le compliment, donc profitez-en. s'il glorifie quelqu'un à l'antenne, surtout des Toulousains qui sont susceptibles de lui faire de l'ombre, profitez-en, ça n'arrivera pas souvent, donc ça vient du cœur.
D'une école où quand même j'ai tenté deux fois le concours d'entrée, j'y ai pas été. Mais pour des raisons qui étaient tout à fait valables de ce côté-là. Oui, P4. Et à partir de là, qu'est-ce que je voulais dire? dire. Oui, on les retrouvera, les étudiants, justement, avec un magazine d'actualité. Désormais, ce sera le lundi de 12 à 13 dans les impromptus culturels. Donc, on verra ce que ça donne. Ce sera sûrement extrêmement intéressant.
Ah bah, s'ils veulent venir même nous voir et participer au supplément week-end, ils sont les bienvenus.
Ah bah oui, avec un immense plaisir. Aujourd'hui,
pour
au programme...
des conneries sur les films, les BD, la télé...
Oh, quand même, qui vérifie un peu, qui remettent un petit peu de sérieux dans cette émission Gaudriole où on ne vérifie aucune actualité et on balance comme ça des trucs complètement à la con. Et notamment, qu'est-ce qu'on va balancer aujourd'hui ? Tout à l'heure, il y aura du radar, il y aura de l'infini, mais il y aura aussi une expérience de la mort, il y aura une petite intégrale Batman, il y aura Drive, la suite, Pacific Rim... On l'a pas déjà chroniqué, ce film ?
Si, mais j'ai trois raisons pour lesquelles on va le rechroniquer. Alors déjà,
j'ai pas pu balancer le top, j'aurais dû préparer le top. Ah, ouais. Vas-y.
En fait, déjà, le film est bien, donc on le rechronique. Ensuite, les bonus... deuxième raison, les bonus sont intéressants, parce que c'est une chronique Blu-ray. Et numéro 3, le film est bien, donc on le rechronique.
On a quand même reçu le 17 août dernier, quand même, Audio Connard, qui l'avait bien flingué. Toi, tu dis, non, il est bien.
Oui, bah moi j'ai...
T'as crié quand même sur les remarques qu'il faisait.
Oui, mais de toute façon, on en reparlera tout à l'heure. On va pas commencer à faire la chronique maintenant. Nous allons commencer peut-être avec les news.
Ma foi, sur les news, il y en a beaucoup. On va commencer avec...
Sinon, du sport parle pas, mais il est bien avec nous. Hein.
Oui.
Il est en train de regarder dans l'équipe où sont les polars suédois cette semaine.
Il remet en ordre ses Batman. Là.
Ouais.
Il va faire un mélange après, tu vas voir. Et on va commencer avec un sonal.
C'était quoi ça déjà ?
C'était France Culture. Je voulais celui de France Musique, je l'ai pas retrouvé.
Ah ouais, non, mais ça m'évoque des trucs ça.
C'est celui des années 80, c'était celui du GRM d'ailleurs, il me semble qu'il avait composé. Ma foi, ça t'évoque des trucs. Ah, si tu savais ce qui est dans l'actu qui va t'évoquer des trucs.
2001, l'Odyssée de l'espace.
Ouais, composé ce morceau, le Beau Danube Bleu, composé par. Par le père.
Tchaïkov.
Non, le père.
Dieu ? Le père, je sais pas, le père.
Richard Strauss. Oh, bon. Alors, figurez-vous que, est-ce que vous connaissez André Rieu, le spécialiste du solo de violon, où il réinterprète quand même les classiques.
Celui à la chevelure faux-folle frisée.
Voilà.
On voit dans les pubs pendant les pubs pendant les feux de l'amour.
Ou le Super Bowl, il aurait pu faire une mi-temps de Super Bowl, je pense, parce que lui, il remplit des stades. Hein. C'est vraiment une star. Et ben, on apprend que il y a un film budgété à 15 millions qui arrive. Ça s'appelle La Grande Valse. Je sais pas pour... Enfin, en même temps,
oui,
les compiles meilleures valses d'André Rieu est toujours un best-seller. Le film se déroule dans la capitale de la musique classique. Nous sommes dans le Vienne, capitale de l'Empire austro-hongrois en 1875. André Rieu se retrouve projeté dans le passé. Et il se réincarne en laquais de la maison de Johann Strauss.
Ah ouais.
Sa position évolue si rapidement par le biais de son génie que le maître finit par lui demander de se déguiser, de se substituer à lui. Je vous jure, c'est vraiment un pitch.
Merde.
Donc, La Grande Valse, actuellement, la production est annoncée, c'est Universal Music qui est derrière, on verra ce que ça donnera.
Non mais ça, c'est un clip, c'est quoi, c'est un court-métrage ?
Non, c'est un film, long-métrage avec distribution et tout. Hop ! Attends, parce que j'ai oublié de lancer, du coup, notre compte, parce que du coup, je vais ressortir l'épreuve. Et oui, c'est vraiment une... Non, je vais pas dire une merde, mais... Ça m'inquiète beaucoup, quoi. Oh là. Voilà, ça m'apprendra de ne pas avoir préparé en temps réel.
Oh là là.
Ah bah quoi, la musique d'ailleurs à propos de 2001, l'Odyssée de l'espace. Si vous êtes sur Toulouse, au musée de l'espace, il y a une très très belle exposition sur à la Cité de l'espace. Une excellente exposition sur justement les...
Sur les...
sur...
Alors, il faut savoir que Xavier ne peut pas faire deux choses en même temps, c'est un homme.
C'est un homme, voilà. Donc, une excellente exposition sur...
On va le savoir au bout d'une heure et demie. Attention.
Sur 2001, l'Odyssée de l'espace, avec des photographies, des plans agrandis, donc tirés de l'épreuve 70 mm, et pas mal de scènes à côté, donc...
Ah, mais c'est quoi ? C'est une expo avec des images extraites du film, c'est tout ?
Entre autres. Il n'y a pas que ça. Hein. Mais j'ai pas pu tout voir. Ouais, mais j'ai pas pu tout voir, je le reconnais. J'ai honte sur moi.
Arrête de tweeter pendant que tu parles au micro, c'est insupportable. soit tu tweets, soit tu réalises.
Non, c'est la musique, je la laisse passer. Pensez qu'André Rieu va massacrer ça, quelle horreur. Dans les autres news, ma foi, figurez-vous que House of Cards saison 2 vient de sortir, donc n'est pas diffusé sur une chaîne de télé aux États-Unis, mais sur Netflix, qui est un site de distribution de contenu. Donc l'intégralité de la série a été commissionnée et ils mettent en une fois tous les épisodes de la saison 2 qui sortent en même temps. Alors le truc qui est intéressant, c'est de voir comment les gens le regardent. Et ça se fait dans ce qu'on appelle la salle de guerre de Netflix. Et là, ils voient en temps réel tous les usages, etc. Ils voient s'il y a un problème, si un épisode n'est téléchargé par personne, c'est qu'il y a un problème, et tout ça. Et le record actuel, il y a des gens qui sont le marathon complet de la série. Il y en a un qui s'est fait le marathon complet avec moins de 3 minutes de pause sur les 22 épisodes.
C'est pas quelqu'un de connu ? Il y en a un qui a
tweeté.
Oui, qui a tweeté qu'il avait vu l'intégrale de House of Cards 2.
Que
et
personne ne me dérange, je suis dans mes appartements privés.
Ouais, mais c'était qui déjà?
Le président de la première puissance du monde.
Ouais, mais je crois qu'il y avait un autre gars qui avait... Je sais pas si c'est pas...
François Hollande,
non,
je crois.
Non, Kevin Smith, ou je sais plus. J'avais vu passer le tweet aussi.
Ça m'étonnerait pas de ce côté-là. Enfin bon, c'est très impressionnant justement ce qui se passe sur cette série. Et ça vaut le coup, c'est que justement, ça n'est pas dans une idée de rebondissement pour suivre les postes publicitaires. Là, ils ont pu faire deux saisons en entier, donc avec vraiment une intrigue qui se monte. Donc effectivement, c'est à tomber. Sachant que House of Cards, c'est à l'origine une mini-série anglaise des années 90, en quatre épisodes. Et que là, il y a une nouvelle série anglaise qui commence à arriver. On a vu que le pilote, il a été diffusé le 9 février dernier sur Channel 4. À savoir, elle s'appelle Babylon, elle est produite par David Lloyd et il est bluffant. Alors imagine...
David Lloyd ou David Boyle ? Parce que toi, t'as écrit Boyle. David Boyle sur le...
Boyle, ouais, je me suis planté, pardon. David Boyle, voilà, je vais y arriver. Voilà, on a vu que le pilote, le trip est relativement simple. La police de Londres est en déficit d'image suite à plusieurs bavures. Elle décide de débaucher la directrice d'Instagram pour la mettre comme responsable de communication de la police, de la Metropolitan Police, donc la police du Grand Londres. Donc imaginez quand même quelqu'un qui vient d'une start-up qui se retrouve à la tête de la com, des inspecteurs, des policiers anti-émeutes et tout ça, alors que frappe dans la capitale un sniper. On a vu les images, la bande-annonce officielle, c'est juste à tomber, il n'y a eu que le pilote de passé, on sait déjà que la série a été commissionnée dans la foulée et que les Américains ont déjà racheté les droits pour l'adapter à leur sauce. Et c'est une rythmique très forte, une musique, une mise en scène incroyable, franchement quand on voit le van de... on est dans le van de police au moment où il percute en fait des voitures... C'est juste à tomber, on voit les flics anti-émeutes qui disent « Ouais, je vais te niquer ta race, tu vas faire moins le malin, etc. » Et en même temps, la fille d'Instagram qui dit « Oui, ben il faut tout dire, même ce que l'on ne sait pas. » C'est complètement contraire, finalement, au travail d'enquêteur. Ça annonce quelque chose de très fort et en tout cas, ça nous retourne. Ton point de vue ?
Moi, au niveau des thématiques, ça m'a vachement rappelé un film de Jonito qu'on avait vu, qu'on avait chroniqué dans cette émission qui s'appelait « Breaking News ». Puisque c'était une guerre de la com entre des malfrats et la police en fait, parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien de ce film, pour ceux qui l'ont vu, à un moment donné, les malfrats mettent sur internet des vidéos où ils sont en train de faire la cuisine alors qu'ils sont assiégés avec des otages dans un immeuble, et pendant ce temps, il y a la nana qui s'occupe de la com de la police qui dit bon ben nous on va répliquer sur le terrain de culinaire, on va distribuer des plateaux repas aux journalistes pour pas qu'ils se prennent trop de sympathie pour les malfrats. Donc c'était une guerre de la com dans Breaking News qu'on semble retrouver dans cette nouvelle série de David Boyle.
En tout cas, ça a l'air extrêmement intéressant. La saison commence en mars et la diffusion en France se fera sûrement dans le désordre avec un doublage catastrophique. 9 mois après, en France, probablement, voire 2 ans après. En tout cas, c'est un petit peu inquiétant.
Bon, c'est surtout quand est-ce qu'on a ce genre de truc en produit chez nous, quoi.
Si au moins, si au moins ils s'y mettaient.
Alors, on va dire hors canal.
Oui, et encore canal.
Mais bon, heureusement qu'ils sont là quand même.
Le canal coupe quand même, il faut le savoir, même les séries anglaises, et ils ont dit récemment, non, on ne savait pas qu'elles étaient coupées, en fait c'est le distributeur international qui les a coupées, et un début de polémique hein, actuellement, même sur les diffusions des séries importées par canal. À côté de cela, figurez-vous que ce mois-ci, c'est les 80 ans de Gottlieb, pardon, de Monsieur Marcel Gottlieb. On en reparlera en long, en large, en travers. Sachez juste qu'il y a un numéro double annoncé de 2 titres mythiques, à savoir Pilote et Flux Glacial, fondus en un seul titre. Gottlieb avait commencé, il n'avait pas commencé dans Pilote, il a eu quelques trucs auparavant dans d'autres magazines. Il a commencé dans Pilote, ensuite il a collaboré, si je me trompe, de temps à autre dans Pif Gadget, avant d'abord de monter l'Écho des Savanes en 72 et ensuite en 74, c'est là où il a monté Flic Glacial, Audi Edition. C'est là où il a importé de la coccinelle, mais Newton était resté dans les pages de Pilote. On en reparlera tout cela en long, en large, en travers très prochainement. Thomas, toi qui es réalisateur reconnu dans les festivals internationaux.
Ouais, enfin bon, c'était une autre vie ça.
Si je te donne 2 semaines et une star internationale, est-ce que tu me réalises un film?
Alors ouais, c'est le concept du Jean-Claude Van Damme's Make My Movie Challenge. C'est le site Funny or Die qui a organisé ça. Donc Jean-Claude Van Damme propose aux internautes un package de scènes qu'il a tourné avec des fonds verts où on le voit utiliser une mitraillette, faire des coups de savate dans le vide ou manipuler un sabre. Et les internautes ont 2 semaines pour incruster ces vidéos dans d'autres scènes ou d'autres images qui sont tournées par ces mêmes internautes. Donc c'est un concours de créativité à partir de Rush avec Jean-Claude Van Damme. Il faut savoir donc c'est moins pour les lots à gagner que pour l'esprit de compétition, puisque les lots à gagner, nous avons des affiches et des films de Jean-Claude Van Damme dédicacés. On a quand même un abonnement à l'Adobe Creative Cloud de 1 an, ça c'est pour les graphistes et créatifs, des iPad mini à gagner. Donc c'est en partenariat, il y a des caméos du créateur du site videocopilot.net qui est le site de référence pour
attention,
les...
Attention, ce caméo c'est dans la vidéo qui annonce.
Oui,
en
oui,
fait,
donc
hein.
il n'y a pas... Mmh. Ouais. Donc ça c'est Andrew Kramer qui fait une petite apparition. Il y a une apparition aussi des créateurs du site Rocket Jump, qui est un site spécialisé dans les courts-métrages à effets spéciaux. Donc on le voit, d'ailleurs ils ont fait un petit court-métrage à sketch qui est hilarant. Et surtout, l'information numéro 1, c'est que Jean-Claude Van Damme confirme son retournement d'image et de carrière, puisqu'il semble se spécialiser désormais dans, le tournage référencé et le second degré. Et le diable, il est pas mauvais, quoi.
Il est vraiment très
drôle.
Il a vraiment un accent.
Oh, I didn't see you there. My name is Jean-Claude Van Damme. I was just kicking this guy ass.
C'est juste à pleurer de rire.
Mais c'est énorme parce que c'est bien troussé, c'est bien préparé, c'est bien scénarisé ce truc. Et ensuite on le voit dans un costume de scientifique avec un gars avec une combinaison verte avec des balles de ping-pong pour l'incrustation derrière une vitre, comme si c'était Q dans James Bond en train de... À un moment donné on le voit en train de boire un café. Il a un retour sur lui-même et puis c'est vraiment super drôle quoi. Et le mec, il est pas mauvais, quoi.
Il est pas mauvais, il a beaucoup, d'abord, le courage, hein, quand même, de donner, puisque c'est, allez-y, servez-vous, même si vous le faites en dehors du concours, allez-y.
Ouais, enfin
prenez.
Bon, le courage de donner, ça se fait sa pub, parce que, mine de rien, il y a son nouveau film qui sort, c'est Welcome to the Jungle, où il le balance dans la vidéo d'intro. Mm. C'est une pub également pour les 2 sites dont on voit les caméos des créateurs dedans. C'est une méga pub pour le site Funny or Die, sur lequel qui organise donc justement le concours. Il faut savoir que Van Damme, il est en train de revoir toute son image parce qu'il surfe un petit peu sur le côté les internautes qui ont grandi avec des films de lui. Il a quand même fait, il a joué sur son image de gars qui fait le grand écart dans la pub pour les camions en Espagne. C'est quand même quelqu'un qui surfe maintenant sur une image second degré. Il a aussi joué là-dessus sur le Expendables 2. C'était pas un rôle humoristique, mais c'était quand même un rôle où il se moquait de son qui recyclait son image de star de la savate. Donc on voit que c'est un revirement. Il lui manque juste, je pense, un bon gros film, une bonne grosse comédie qui marche. Voilà.
JCVD.
Non mais JCVD, oui,
c'était pas une comédie, ouais, justement, c'était très fort.
Mais vraiment une grosse comédie comme Robert Downey Jr. sait les faire, quoi, une bonne petite comédie d'action bien troussée pour que ça marche, parce que vraiment il y a du potentiel.
Alors, on parlait d'un cameo tout à l'heure d'un mec qui est spécialisé dans les tutoriels vidéo.
Oui,
c'est pas n'importe quoi ce qu'il fait, c'est assez hallucinant. On peut en parler en deux minutes peut-être.
Oui, bah j'en ai parlé rapidement tout à l'heure là. Donc s'il s'agit d'Andrew Kramer, le fondateur créateur du site VideoCopilot.net qui est la bible pour les motion designers et les graphistes et auteurs d'effets spéciaux utilisant le logiciel notamment After Effects. Donc c'est quelqu'un aussi qui est habitué à se mettre en scène de façon rigolote puisqu'il a récemment posté un tutoriel pour manipuler des lumières et juste avant il avait posté une vidéo où on le voyait en train de d'étudier justement ce tutoriel et en fait on le voyait avec un tournage en conditions réelles où il était en train de faire exploser des bouts en carton pour essayer de faire du détourage de logo avec des lumières qui passent derrière. Bon, évidemment, c'était vous voyez avec mon logiciel on peut faire ça, mais on peut aussi le faire en tournage physique, donc c'était vraiment du second degré. Enfin, toujours est-il que Van Damme, c'est pas gratuit ce qu'il fait. Et il sait très bien s'entourer, il sait très bien quelle cible il va toucher. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Puis en plus, il a quand même. Il faut savoir que ça fait à peu près une petite dizaine d'années, un peu moins, qu'il a dans les tiroirs son fameux deuxième film qu'il a réalisé et qui est toujours dans les cartons, qui est jamais sorti, qui s'appelait Eagle Pass, il s'appelle maintenant Full Love, et qu'il a toujours pas sorti. Et dans les interviews, il avait dit qu'il voulait récupérer son pognon et il essayait de trouver un créneau pour le sortir, soit directement en DVD, soit au cinéma. Et je pense que c'est peut-être la première phase pour essayer de... Voilà.
Donc Jean-Claude Van Damme, vous avez jusqu'au 3 mars pour participer à ce concours. C'est sur le site funnyordie.com, qui est un site professionnel de production de vidéos. Ils font des trucs à très haut niveau, donc humoristique. Donc il suffit que ça soit relativement court. Et c'est vrai que les premiers trucs qu'on a vus duraient 2 minutes, mais nous laissaient nos sièges humides de rire.
Autre news à présent, toujours dans l'humour référencé. Donc c'est un truc qui nous a aussi beaucoup fait rire.
C'est gigantesque.
Ouais, gigantesque, on va voir ce que ça donne, parce que pour l'instant ça reste quand même assez franco-français. Donc ça s'appelle Goal of the Dead, donc ça va intéresser du sport d'ailleurs qui est en train de préparer ses chroniques de tout à l'heure. Donc il s'agit d'un film réalisé à deux personnes, donc c'est Benjamin Rocher, l'auteur de La Horde, et Thierry Poirot qui nous avait fait Atomic Circus, qui se mettent en double programme, double feature, à l'instar de Tarantino et Rodriguez pour Grindhouse. Et cette fois-ci c'est un film qui raconte l'histoire d'une équipe de foot parisienne qui va aller dans la France profonde pour faire un match amical avec une équipe locale. Sauf que le village que représente cette équipe locale est infesté de zombies. Et donc c'est un mélange entre un film sur le foot et un film de zombies. Et les deux réalisateurs, chacun s'occupe d'une mi-temps à part. Voilà, donc le trailer est disponible sur le site de Manouviz.
On vient de le tweeter.
32e de finale face aux amateurs de Cap Longue, ça devrait pas poser trop de problèmes.
Il y a quand même un lourd passé. Il y a 17 ans, les deux clubs s'étaient rencontrés. Et qui était l'attaquant vedette de Cap Longue à l'époque? Samuel Lory.
Regarde, John Lory, ce joueur. Comme ça, John Lory.
Non mais vous avez un problème dans ce village.
Et il y a tout, il y a les supporters de foot qui sont bourrés, violents, intolérants. Et d'un autre côté, voilà quoi, il y a le mec qui a le melon, les gens qui sont complètement décalés et ça tourne à n'importe quoi. Avec la bande-annonce, ça donne envie.
Puis c'est du humour second degré, puisque à un moment donné, il y a la nana qui dit au mec, non mais toute cette violence, c'est impensable. Et puis il dit, ouais, mais t'as vu l'arbitre aussi. En tout cas, on reconnaît en voix off le duo Hervé Matou, Pierre Ménès de Canal+, donc ils sont allés chercher quand même de la voix officielle. Donc en voilà, Goal of the Dead. Alors,
Pour les dates, le film sort à Paris le 27 février, suivi d'une tournée en province en avril. Voilà.
On attendra, on en reparlera. Dernière news je me suis trompé de disque, voilà, ça m'apprendra. À savoir, si vous vous intéressez à l'auto-édition et au crowdfunding, il y a un auteur de BD qui fait un blog BD depuis une douzaine d'années qui s'appelle Demain J'Arrête. C'est un web designer qui est pas manche, hein, point de vue bande dessinée. Il s'appelle Christophe Andrieux. Il est aussi humoriste, un up comedy. Je l'ai vu à Paris Web. C'était la seule fois où il l'a fait. Mais ça, c'est complètement à part. Il a auto-financé sa bande dessinée. Enfin, il a financé en crowdfunding et il a auto-édité sa bande dessinée. Demain J'Arrête. Et il en a fait un retour d'expérience. Assez long, assez complet, c'est extrêmement intéressant, c'est pourquoi il est venu vers ça, pourquoi il ne s'est pas tourné vers les éditeurs, quels sont les obstacles financiers, les obstacles techniques, les obstacles juridiques, et même carrément, il a eu une menace de procès, hein, il a eu une demande, une fois que tous les bouquins étaient publiés, s'il vous plaît, arrêtez la commercialisation parce que vous portez le même nom que notre livre. C'est assez chaud, hein, quand même. Mais malgré tout, il en est arrivé à quelque chose. Il a fait un énorme retour d'expérience que je vous invite à lire, qui est vraiment de ce côté-là quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque il explique, fort logiquement, quelle est d'abord, il explique de manière chiffrée quelle est la part que les auteurs reçoivent quand on est distribué par un éditeur, par le circuit classique, en passant par le distributeur et le libraire. Et d'un autre côté, ce que l'on reçoit quand on est directement diffuseur de son propre album. À noter que le rapport de TVA n'est pas le même. C'est extrêmement intéressant. D'un autre côté, qu'il existait des tarifs préférentiels pour la poste qui ont disparu. Plein d'obstacles comme cela. C'est vraiment passionnant, ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'on va peut-être essayer justement de l'interviewer de ce côté-là par téléphone. Malheureusement, je me suis bougé un petit peu trop tard. Il était chaud, mais je me suis bougé un petit peu trop tard. De ce côté-là, franchement, Demain J'Arrête est disponible en vente directe sur le blog de Christophe Andrieux, stpo.fr. Et c'est là-dessus justement que vous pouvez lire son billet « Bande dessinée et auto-édition, ce que j'ai fait et j'ai survécu ». Néanmoins, attention, il est rentré dans ses fonds, mais il n'en vit pas. Et ça, c'est malheureusement, il explique que tout n'est pas forcément dans la crise de surproduction dans la bande dessinée, mais quand même une bonne partie. Le supplément week-end sur Radio FMR, c'est l'émission numéro 376, et comme d'habitude, y a toujours des défauts de préparation, à savoir que dans ce cas-là, je n'avais pas préparé le disque. Si on fait un petit break musical avec le Bosch Orchestra, il s'est extrait de l'album Nick Taraf, je crois que c'est un traditionnel folklorique.
Я буршкафиня, спать дай пиня, пушкала дженести. Прыкабуй меня, мургурин, горькоршко, зубальки, варьем и стайне. Борщ оркестра!
Да и си квесту сумен!
Аргиня, ста пичья, ста варгиня, пичка, ста варгиня. Zimia polki wiecia, bruga zemia zdibiesz ko za wiecia. Pierwszy z nią staborka wadzi, a bruga za mnie ci. Porkuwaśka za dzieniu, porkowaj zja za cię. Nie porkawaj burka cinko, zaj porkawaj laciaczki. Nie porka wijać kurtia, porka wymia niezko, porka wajać się nie z burka czar. Zabudę na martynie. Ciasta, burka, wyciec i wodka. Nie, nie stasz, burka, waradzija. I jeszcze nikt teraz. Kij, nie zmienia. purškavaj lakša zimnja parkavačo. Njes purškavaj lakša zbinja sti, a djevorkaj valđinja ta stačinja. Purškavaj lakša zja zbinja, čo staj brki vjažinju. Poškovaj paška zbinja, njes taj brki vjažkaz. Nja purškavaj lakša zbinja, purškavaj lakša zimnja, purka zinja, purškavaj lakša nja purka sti pjašaj. Кошка своя меня будивья, пешка зайна чесноцка, башник Тарас, пешка булька наша не на свинья, тесто в кадр колбаши на сипьяча, пешка зайна бурки подскабая. Bakinja pošta viče, nje zburka vajla bi mi još je zantidio. Purka vajla žinje, nje stoj purka vajla čeća. Čumska vajla bi mja zimnja, školska mi vojski kolka. Nja burškavaj laž por spinko, taj burškavaj laž za zimnja staj burka. Ješka zivurka, štuška dunja, staj bina vrški za. Rani murka boleši, so stiski, nješko za laj bineški. Burkavaj žinja, sta burkava laži nje zinja, burkava la počinje nja če bož orkestra. Ja burškava la dunja, staj nje stađi. Arkoča žinja, burkava iče lonje, nje burkava la žinja stiđe. Burkava la meneci nje, burkuš nje za vinja, burkava če nje vodka viša si. Nje burkava vi, da ja burka, uski koka, bur ja burši na stin. Nje burkava če dje, da staj tu nje burkava li ranče, nje či činja. Bur ja burka vi nje sti, tu je strola, bi je burška zimja, unu burkava li žani, a burkava la žinja sta. Nikta! Nje burkava unja nikta raz. Veća burga nikta raz. Veća burka vinja, burška vanja nikta raz. Veća burga nikta raz.
Borch Orchestra, Nektarov. Et vous écoutez le Super Week-end sur Radio FMR, numéro 376. Nom de Dieu. Et on est toujours aussi minable.
Bah
non, je déconne, je déconne. On avait beaucoup d'actu.
Et avec des gens comme ça, on n'a pas besoin du tracteur, nous. Hein. Pas du sport.
Non, mais on est honnête.
Mais non, on n'est pas minable.
Allez, je déconne complètement. On entame les sorties bande dessinée. On a beaucoup en plus en retard, comme l'actu. Avec Docteur Radar, tueur de savants. C'est aux éditions Glénat. C'est scénarisé par Noël Simsolo. Et je vois du sport déjà qui regarde ses fiches. Et dessiné par Frédéric Bézian. Et je vois Thomas qui déjà commence à consulter le bouquin.
Non, c'est déjà fait. Hein.
T'arrêtes de spoiler. Après la terrible boucherie de la Grande Guerre, l'Europe cherche à reprendre goût à la vie. Il y a les prémices artistiques des années folles et les rêves scientifiques. Ben oui, Rutherford dit cette année qu'il a réussi à casser l'atome. L'atome qui est censé être insécable. Un potentiel incroyable qui défie l'imagination ou encore l'aviation et la possible conquête des éthers. S'affranchir de la gravité terrestre pour aller visiter les astres. Oui, 1920 est une époque où il y a de l'espoir, mais aussi les germes d'une nouvelle guerre. Or, les savants qui sont le plus en point dans le domaine spatial semblent tous souffrir, disons, de morts subites de plus en plus rapprochées. à se poser une question s'il n'y a pas un tueur en série. Cela pourrait être des crimes crapuleux, mais à chaque fois, les notes, plans et feuilles de calcul ont été dérobées dans la foulée. Pourquoi s'attaquer à des spécialistes de l'astronautique, sinon, pour conquérir l'espace ? Ferdinand Strom, un riche oisif, amateur aviateur hors pair et gentleman détective renommé, en est intimement convaincu. Son brillant esprit de déduction va le mettre sur la voie d'un esprit machiavélique. De plongée en milieu entourloupe, filature, interrogatoire et recoupement, il va mettre un nom derrière ce complot, le docteur Radar. Mais cet homme est insaisissable, aucun des informateurs ou hommes de main ne l'a réellement vu. S'engage pour Strom et police d'Europe, une course-poursuite semée d'embûches, de fausses pistes et de pièges mortels. Docteur Radar se révèle vite être un dangereux criminel, plein de ressources qu'il vaut mieux ne pas trop chatouiller. Au casting, difficile de ne pas parler de l'ensemble des carrières de Noël Simsolo, donc le scénariste. Il a écrit les aventures, il a écrit quelques aventures du Poulpe, donc personnage roman noir emblématique. Il a aussi écrit la série des Edgar Flanders. C'est un comédien, c'est un réalisateur de cinéma. Il est aussi un historien du cinéma. Il a fait une suite d'entretiens avec Sergio Leone, donc il a fait un bouquin. Il est aussi réalisateur de documentaires pour la télévision. Bref, c'est un auteur complet. Et dans les années 90, il a écrit une dramatique pour France Culture, c'est comme ça qu'on appelle en fait maintenant les séries radiophoniques. Et justement, et ben, Docteur Radar en est l'adaptation en bande dessinée. C'est donc sur cette base que Frédéric Bézian a fait sa mise en image. L'intrigue de base est une référence aux romans feuilletons de l'époque, comme Fantomas ou Arsène Lupin. Et la BD en reprend les canon du genre, un génie du mal, aux moyens financiers et technologiques impressionnants, une police volontaire à l'arrêter, mais ridiculisée. Et surtout les références aux recherches scientifiques et à l'art contemporain, c'est-à-dire on est dans l'ambiance de l'époque, hein, des années 20. Normal que Bézian s'y sente à l'aise, et il multiplie d'ailleurs les clins d'œil au niveau graphique ou sur les mises en scène dans tous les sens. Lui qui d'ailleurs est vraiment passionné justement du cinéma allemand muet de l'époque. Il y a vraiment un dessin noir, nerveux, plein de références artistiques. L'ambiance est prenante, le rythme rebondit régulièrement avec l'intrigue. À vrai dire, moi ça me donne envie vraiment d'écouter la pièce radiophonique dont ça en est issu. C'est vraiment un bouquin qui en tout cas m'a... Je me suis plongé dedans. On est dans les ambiances monochromes avec des pointes de couleurs, c'est-à-dire on a des teintes de couleurs et ensuite et des fois il y a des trucs qui éclatent dans tous les sens. Il y a une dynamique qui est jetée et en même temps et ben il y a des l'incertitude dans les personnages qui éclatent dans leur visage. C'est vraiment quelque chose de flippant et qui envoie bien du bois. Ultimatum, ma foi.
Alors moi je suis scotché par le graphisme des cases. J'ai juste une petite... Alors moi ce que j'apprécie dans celui-là, c'est que je trouve que Bézian il délaisse un petit peu le côté un peu radical de sa... C'était pas sa précédente BD, c'était celle d'avant avec l'espèce de maison un peu grise.
Oui, la maison d'architecte.
Ouais voilà, ça c'était vraiment trop radical pour moi. Là il retrouve un côté un peu plus aventureux. Je suis scotché par les dessins. J'ai juste une petite réserve. C'est juste que ça, le texte, la façon qu'il a d'écrire en fait est assez illisible. Mais même si ça colle parfaitement avec son trait, moi j'ai un peu du mal. J'ai l'impression de m'arracher les yeux en lisant les bulles. Mais c'est la seule réserve. Sinon les dessins, moi je pourrais lire, je pourrais juste me laisser happer par les dessins sans lire les bulles en fait, parce que c'est vachement bien. Les couleurs, il n'y a rien à dire. Les ambiances colorées, c'est à montrer dans les écoles de graphisme. Le trait...
Surtout, ce qui est impressionnant, c'est le découpage des cases, qui est vraiment un découpage octogonal, carré, 4 bandes, 4 bandes, 3 cases horizontales. Et malgré tout, il y a un dynamisme impressionnant derrière.
Ouais, puis... Bah, à côté de la radio, je suis enseignant et moi, ça me tue parce que quand j'indique aux étudiants que le sens des hachures, quand vous faites des dessins et que vous hachurez, ben le sens des hachures, ben c'est pas anodin. Et là, Bézian, il a tout compris, c'est qu'il n'y a pas un trait qui soit soit en trop, soit mal fichu. C'est méga maîtrisé. Voilà.
Docteur Radar, tueur de savants, scénarisé par Noël Simsolo et dessiné par Frédéric Bézian. Du sport en plus, je crois qu'il connaît l'œuvre de Simsolo, donc
un petit peu vaguement.
Un petit peu vaguement, voilà. C'est édité chez Glénat, il y a une édition luxe aussi qui est sortie, donc je pense que là, c'est peut-être la reproduction noir et blanc, je pense, en plus grand format. On enchaîne avec Section Infinie de Laurent Cressy, dessiné par Greg Totini. C'est une série qui s'annonce en 4 albums. Le premier album s'appelle Perdu dans le temps et vient de sortir chez Glénat. Et la Section Infinie qui donne le titre à l'album, eh ben c'est une sorte de commando officieux. Tout part de phénomènes incompréhensibles et inexplicables. Dans un bosquet, un cercle de givre se forme durant la nuit, gelant à cœur les arbres. C'est incompréhensible car les rares fois où cela se produit, ben à chaque fois le thermomètre ne descend pas en dessous de zéro. Donc comment ça se fait ? Un phénomène difficilement explicable, surtout au début du XXe siècle, et qui va mener quelques heures plus tard à la défenestration d'une femme en plein centre de Paris. Alors comment un petit club qui se passionne pour des phénomènes inexpliqués en est venu à constituer une armée de l'ombre ? C'est ce que va découvrir par le plus grand des hasards un géologue, Edgar. En cherchant l'épicentre d'un micro-séisme difficilement compréhensible, il va tomber sur un bosquet gelé et des individus nus et tatoués. Rencontre qui va dégénérer quand arrivent des personnes armées qui vont tirer dans le tas, entre guillemets. Mon Dieu, au secours, c'est la SCA, c'est la Section Infinie qui débarque ainsi, qui combat les pirates, des individus sortis de nulle part et qui envahissent notre réalité. Sauf que la Section Infinie a été dissoute il y a une dizaine d'années. Ah. Entraîné dans l'histoire, impliqué malgré lui, et s'y enfonçant encore plus de par sa curiosité, Edgar va entrer dans un des mystères les plus perturbants, le voyage spatio-temporel. Des aventures épiques, un polar fantastique, monté comme un film d'action hard-boiled, avec un style graphique jeté, sincèrement. Il y a une scène qui m'a fait beaucoup penser justement à vraiment au polar moderne, à gros flingue. J'aurais pu ne pas me jeter dedans, et pourtant j'ai été happé par l'histoire. Et le script alterne des dialogues denses avec des scènes d'action qui sont vraiment très dynamiques et qui envoient et qui font penser aux comics. Et pourquoi, vous allez comprendre plus les deux lignes plus bas dans mon prompteur. Qui plus est, les auteurs arrivent à jouer du paradoxe temporel d'une manière intelligente. Laurent Cressy est un romancier, c'est aussi un critique de romans et de bandes dessinées dans une émission sur une chaîne alternative qui s'appelle Plus ou moins Geek. Il a aussi scénarisé la série Black Line, qui a été dessinée par Pascale Del Vecchio et paru au Lombard. Greg Totini, c'est un illustrateur brésilien qui a d'abord commencé comme illustrateur pour les revues de jeux de rôle avant d'entrer dans l'industrie du comics sur les séries The Demon Wars, Star Wars, Thor, Son of the Asgard, Gotham by Gaslight et Wolverine Father. Donc c'est vraiment un auteur qui a beaucoup travaillé dans l'industrie du comics. Il sait ce que c'est que faire de la mise en scène et montrer une scène de fight ou un Mexican stand-off sans que ça soit en fait ridicule. Et là franchement, c'est vrai que une fois passé les premières pages, on entre dedans.
Bah, c'est-à-dire que
et ça envoie.
Les premières pages qui figurent le passé, le graphisme est un peu plus hésitant, un peu plus on sait pas trop. Alors que après, quand on se retrouve dans le présent, quoi, 2014, là, c'est vrai que c'est plus structuré, ça fait plus comics, quoi, c'est vrai.
C'est ça
au niveau
envoie
du dessin,
vraiment.
Quoi.
Enfin, là, t'es là, tu dis ouais, punaise, la scène de fight en voiture, tu te dis bah c'est un braquage, c'est un vrai braquage de fourgon blindé, quoi, quasiment. Et ça envoie vraiment du bois. Franchement, j'étais là, je l'ai acheté, je me suis dit ouais, bon, allez, bon. Pour voir, je prends toujours des bouquins au hasard un petit peu pour voir, pour me laisser surprendre. Et là, j'ai pas été déçu. Section Infinie, tome 1 sur 4, Perdu dans le temps, de Laurent Cressy au scénario et Greg Totini au dessin. Et c'est édité chez Le Lombard. Et on m'a fait remarquer d'ailleurs que Le Lombard récupère beaucoup de dessinateurs de comics en ce moment, qui font travailler sur les projets plus franco-belge en termes de format. Ah ben ça marche bien quand même, hein. Ça vaut le coup d'œil. On reste dans les voyages étranges et bizarres. Et,
ouais.
Et les traitements graphiques saturés à la solarisation.
Voilà, on va parler de la mort maintenant.
De la mort qui tue !
Eh oui, alors première partie d'une diptyque de chronique que je vous propose aujourd'hui sur les failles vers notre monde. Donc cette fois-ci, nous allons parler d'un vaisseau qui va vers l'au-delà à travers le tome 1 d'une nouvelle série qui s'appelle Expérience Mort. Le tome 1 s'appelle La Barque de Ra. Juin 2016, au musée archéologique du Caire en Égypte, un agent de sécurité tombe raide mort après avoir touché un objet prétendument maudit. La barque de Ra. Mars 2019,
les communautés religieuses et athées se révoltent. La célèbre milliardaire américaine Kathleen Fork, impuissante devant la mort à petit feu de son fils atteint d'une maladie incurable, tente un pari fou. Débrancher le mourant et y relier un vaisseau créé par une armée de savants afin de l'accompagner vers l'au-delà et l'arracher aux griffes de la mort. Comment en est-on arrivé là? Qui seront les têtes brûlées qui prendront part dans ce voyage vers l'infini et l'au-delà? Fils de la milliardaire reviendra-t-il à la vie? Et à quelle puissance intangible on va se mesurer? Une œuvre de science-fiction qui s'articule autour du concept d'expérience de mort imminente, en fait, et cette sensation de béatitude dont on parlait beaucoup les anciens patients qui étaient dans le coma. Donc, trois auteurs derrière cette nouvelle série. Donc, Denis Bajram, le créateur d'Universal War 1 et Universal War 2, désormais, co-auteur de l'histoire et en charge de la post-production visuelle. Sa femme, Valérie Mangin, également co-auteur de l'histoire, scénariste et dialoguiste. Et le dessinateur, c'est Jean-Michel Ponzio. Au storyboard, au dessin et à la couleur. Alors, Jean-Michel Ponzio, si vous êtes un habitué de l'émission, vous saurez que Xavier ne l'apprécie pas des masses, surtout son dessin.
Je crois que c'est
Puisque c'était l'auteur du complexe du chimpanzé Dernier Exil ou encore la série Genetics. Et alors il faut savoir que c'est un dessinateur qui s'est spécialisé dans le dessin d'après photo, donc il s'inspire de photographie.
T'appelles ça du dessin?
Ou alors de la retouche photo? Bon, ouais.
Ouais, parce que non, faut être honnête. Moi, quand j'ai regardé justement le complexe du chimpanzé et l'autre bouquin que j'ai chroniqué, là, je l'avais sous les yeux. Voilà, Dernier Exil. Honnêtement, c'est de la photo avec un effet solarisation et extrait. Extraction de contour. Et des fois, il n'a pas les scènes qui lui manquent. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il plonge dans le noir. Il fait un clair-obscur, du théâtre d'ombre. Et c'est tout. C'est du roman photo pour moi. Ça va pas au-delà.
Ouais, alors là, je trouve qu'il a un peu plus de maîtrise que sur les précédentes séries.
Rappelle-moi qui est en charge du design graphique.
Personne, la post-production visuelle est Denis Bajram, mais ça je l'ai dit tout à l'heure.
Ouais, Denis Bajram qui quand même a fait les deux derniers tomes de Universal War 1 et le premier du 2 uniquement sous Photoshop, et qui donne des cours d'ailleurs.
Moi j'ai généralement un problème avec les retouches photo. Pour moi, le graphisme ça passe. Effectivement, ça a un côté un petit peu figé, mais je trouve que le dynamisme et le découpage cinématographique remplit bien son office et montre son efficacité. Le concept est suffisamment alléchant dans la veine des films hollywoodiens, on va dire, à la Michael Bay, à la Sphère avec Sharon Stone, les bons vieux films d'aventure comme L'Expérience Interdite ou des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est un concept qui marche bien. L'ambiance chromatique, c'est vraiment hollywoodien à fond, donc c'est des teintes bleutées, des effets spéciaux lumineux, on a des têtes brûlées qui s'embarquent dans ce vaisseau qui sont des archétypes, hein, puisque par exemple on a un homme d'église prix Nobel de physique, un pilote de la NASA, une belle scientifique, un agent spécial du gouvernement réuni par une milliardaire qui chapeaute un peu le tout, et dans un vaisseau qui est imaginé par un savant israélien qui a perdu toute sa famille après un attentat. Bon,
Denis, si tu nous écoutes, t'aurais pas un petit peu repompé un peu le concept d'Universal War 1?
Non, en fait c'est archétypes. En fait c'est un vaisseau qui va se confronter justement à l'au-delà, donc évidemment il y a les thèmes religieux qui sont mises en scène dedans. C'est pour ça qu'il a pris un homme d'église, quelqu'un qui ne croit plus en rien, un ancien juif, enfin un juif non pratiquant, enfin qui est issu d'une famille juive. Donc voilà, on a des questions intéressantes là-dessus. Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux thématiques d'X-Files, puisqu'il y avait la sceptique Scully, mais qui était quand même croyante par rapport à celui qui était prêt à croire, mais qui n'était pas croyant du tout, qui était Mulder. Donc là, on a un petit peu le même système de confrontation d'idées. On a également la tête brûlée, le militaire vraiment qui est dans le vaisseau et qui est juste là pour faire son job, piloter, et qui va pas arrêter de jurer, qui va faire que des blagues salaces sur la jolie scientifique à côté. C'est du gros spectacle. Je l'ai lu une première fois
Je me suis fait embarquer par l'histoire, hein, voilà, je l'ai, entre-temps, je l'ai pas chroniqué, il a fallu que je le relise une deuxième fois, je connaissais déjà l'histoire, mais je me suis refait embarquer dedans, je me suis fait avoir les deux fois. C'est quand même une BD qui est assez efficace, c'est une série, une courte série en deux tomes, donc c'est un diptyque. Moi, bon, c'est vrai, c'est d'après photo, ça m'a pas forcément gêné, parce qu'encore une fois, la mise en scène marche bien. Par exemple, au début, on a l'impression que le vaisseau, il part pas, mais ça utilise aussi, par exemple, une scientifique qui est restée dans la base, qui va faire tomber son café, puis on voit le café qui est en apesanteur, et puis on voit qu'il commence, les premiers prémices du voyage qui commence à faire son office. On a les effets obligatoires, donc glaciation, distorsion du temps, apparition fantomatique. Bon, voilà, c'est pas vraiment dans l'originalité. L'originalité ne vient pas forcément non plus du graphisme, mais ça, je pense que ça contentera beaucoup ceux qui veulent de la BD à gros spectacle sur un petit nombre de tomes. Voilà.
Il faut dire aussi que Bajram et Mangin sont quand même de bonnes références.
Ah oui, Mangin.
Mangin l'a repris, par exemple, Alix.
Alix Senator, oui, j'allais le dire. Qui sont les fondateurs de Cadran, la collection Cadran aussi. Donc c'est quand même une bonne équipe derrière. Voilà, donc Expérience Mort, tome 1, La Barque de Rat, c'est chez Ankama, par Denis Bajram, Valérie Mangin et Jean-Michel Ponzio. Voilà.
Batman. Non.
Ah bah ouais, si tu veux. Ouais. T'as pas de générique là, non? Ah, c'est con, j'aurais pu en prendre un, quoi.
Oh, si tu veux, attends.
Ouais, coupure musicale peut-être avant.
Non, mais on la fera après, quoi.
Allez.
Ouais, parce que je vais pas être tellement long. Alors,
oula,
ça fait longtemps.
Traînez-moi sûr.
Ça fait longtemps que je vous avais pas parlé de Batman. Enfin, ceux qui paraissent en kiosque, hein, les Batman Saga. Là, on en est bien.
Parce que
numéro 21 déjà.
L'arc précédent, c'était la cour des hiboux.
Ça c'est fini.
Et là, c'est le retour du Joker.
Le retour du Joker dans ce qui s'appelle Deuil dans la famille. Alors, cour des hiboux, hein, c'est déjà maintenant disponible dans les librairies
en cartonné,
hein, pas de problème. Deuil dans la famille aussi. Hein, parce qu'il faut savoir que ça se termine au numéro 19. C'est-à-dire que là. Entre guillemets, disparition du Joker, parce que on se dit ça y est, il est mort une nouvelle fois, on le sait, parce que là, ce coup-là, il en a fait tellement que Batman a un petit peu pété les plombs et a dit a laissé tomber son sens moral qui dit faut pas tuer, quoi.
Ah oui, quand même.
Faut dire qu'il était un peu poussé à bout. Mais il est tombé dans le précipice qu'il y a dans la cave de Batman, quoi.
Attends, tu es en train de nous raconter la fin de l'arc du Joker, là.
Tellement important parce qu'en
je m'étais arrêté au début, en fait.
Ah ouais, ça.
C'est ballot.
Mais tambour battant, parce qu'il faut savoir que dans Batman Saga, il y a différentes parties. Différentes aventures qui sont parallèles. Alors, ce qui fait que ce qui était bien dans le deuil dans la famille, le Joker, lui, il s'attaquait à toutes les composantes de Batman, c'est-à-dire le Batman, le détective comics, Batgirl, Nightwing, tous ils y avaient droit. Allez, on y va, quoi. C'est attaque simultanée et à fond les manettes. C'est terminé, sans temps mort, quoi, pratiquement. Y avait toujours ce truc sous-jacent qui était plus exploité dans Batman Inc, c'est-à-dire la série de Grant Morrison, hein, c'est-à-dire avec toutes les déclinaisons de Batman, les déclinaisons de Batman selon les différents pays. Mais Deuil de la famille, bien sûr, a été intégré dans cette version. Et dans Batman Inc, qui est le principal ennemi, on va dire, de Batman ou des Batman, c'est le Léviathan.
Oui,
Léviathan,
oui.
L'association créée par Talia al Ghul, la fille de Ra's al Ghul. Et la maman du quatrième Robin, Damian Wayne, qui est l'actuel Robin
de 10 ans, c'est ça?
Le gamin de 11 ans, quoi. Avec qui, justement, qui est très, très, beaucoup, beaucoup exploité, quoi, ces derniers temps dans les Batman depuis que c'est Batman Saga. Pourquoi? Parce que, c'est une excellente idée pour développer les relations père-fils, toutes ces choses-là, à travers des codes moraux, plein de choses, à travers bien sûr le cheminement de Bruce Wayne et de Batman. Mais Grant Morrison, il s'est dit j'ai quand même laissé ma marque, mon empreinte à moi, Oui, c'est ça. Eh oui.
Oh,
et
merde,
ça
merde.
Arrive.
Ah là là. Et wow. On ne dira surtout pas à l'antenne.
Et ça arrive quand même. Ça arrive quand même. Alors ça c'est bon. Bah on se dit waouh, non quand même quoi.
Oh, c'était déjà arrivé ça. Hein,
ouais, c'est déjà arrivé. J'allais dire tellement de fois qu'on se dit ouais, mais attends. C'est comme le coup de Spider-Man qui est mort. Non, on peut pas le croire et tout. Quoi.
En
tu vois,
tout
il
cas,
revient. Et là, bon bah, c'est vrai qu'il y en a d'autres. À chaque fois, ils reviennent. C'est plus le cas des super vilains que, on va dire, des super héros. Hein. Quoi qu'on a déjà vu des super héros revenir comme ça, quoi. Mais là, bon, bah, ok, on se dit ouais, non, bon, pff, ok. Et on en rajoute une couche hein, dès le suivant et tout. D'accord. On se
d'accord,
dit bon, bah,
au
là,
cas où vous auriez pas compris.
Au cas où t'as pas compris, non, il est pas.
Voilà.
Ok. On y va. Et alors là, là où c'est plus intéressant, là c'est graphiquement intéressant parce que là ça se passe dans le Batman Saga hors série numéro 3. D'accord,
d'accord. Okay. OK.
Et quand on prend le numéro de janvier, c'est-à-dire début 2014, eh bien le premier Batman and Robin qui s'appelle Défait, en fait, il n'y a aucune bulle. L'ensemble de l'épisode,
ah ouais.
Ce ne sont que des images.
C'est impressionnant.
Ce ne sont que des images. Et là, ben, on se dit, il y a un petit texte à la fin. Hein.
Ça renforce le côté crépusculaire.
Il y a juste un petit texte à la fin qui est une lettre. Et bon, ben, ça se passe de tout commentaire.
Ouais, ouais, ok, d'accord.
Hein, c'est, on se dit, bon, ben là, les
alors,
gars.
Alors, juste
très,
un
très
message
fort.
Pour nos amis auditeurs.
Quand même, quoi.
Pour l'instant. Du sport s'en tient à ne pas spoiler. Va-t-il résister jusqu'à la fin
ouais,
de sa chronique?
Enfin bon, comme vous êtes des spécialistes des réseaux sociaux où il faut que tout aille très vite,
non,
tu
non,
vois,
non,
généralement,
ça viendra
ce genre
pas
de
nous, sache-le.
Sachant que c'est la version française.
Je sens qu'il va craquer,
La version française qui a quand même quelques mois de retard. Bon, ben, ok, quoi, c'est. Mais bon, ça veut dire que, bon, ben, du côté de Batman Saga, on tient là-bas.
Il a failli.
Il a coupé le micro, je crois pas.
Et on tient la barre très très haute et ça me fait que j'ai juste envie de vous dire achetez-les parce que là vraiment quoi, on est à un niveau qui est vraiment très très bien. Hein, les plusieurs arcs qu'on a parlé, la cour des hiboux,
ouais,
quoi,
ouais,
c'était
ouais,
vraiment très bien.
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Le deuil dans la famille aussi, quoi, vraiment très très bien. Quoique bon,
en deçà, peut-être la cour des hiboux.
Bah, c'est-à-dire qu'avec le Joker. On en a tellement vu et il faut dire que il y a un petit peu la patte de Christopher Nolan dans sa version du Joker dans le Batman 2 qui fait que maintenant bien les scénaristes dans les comics sont également obligés de pousser un petit peu on va dire
le côté trash, le côté gore, le côté terroriste un peu.
Du Joker et ce que Christopher Nolan développe justement de par la bouche de Heath Ledger donc qui joue le rôle du Joker dans le film eh bien c'est également développé quoi dans le deuil dans la famille cette théorie du chaos et tout
ouais,
ça
ouais, d'accord
voilà
okay.
Donc alors j'en dirai pas plus quoi et puis voilà donc achetez ça vaut le coup et tout quoi procurez-vous quand même bon bah là on en est à février quoi procurez-vous celui de janvier quoi celui dont je viens de parler avec l'épisode qui est entièrement enfin qui est complètement muet c'est vraiment du grand art quoi là il y a hein, ça se passe vraiment de commentaires c'est le cas de le dire.
Du sport, je te tiens mon chapeau, tu n'as pas spoilé.
Ouf, on a eu peur. On a sincèrement
l'émission
eu peur.
N'est pas finie.
12h58 sur la poubelle des radios. Petite interruption musicale là, avec Olan Bator. Vous avez toute ma sympathie. Le morceau s'appelle Sympathie.
Sainte patrie, oui c'est moi qui compte.
Sympathie par Ulan Bator. On vous explique un petit peu ce qui s'est passé. J'annonce à du sport que c'est à lui dans 10 secondes et il me dit non, j'ai un truc urgent aux toilettes. Et moi je me retrouve avec toute ma preuve musicale qui part en l'air. Heureusement, il suffit qu'on bouscule un petit peu le bazar et hop, j'envoie ça. Oh tiens, un trou HK pour une fois.
HK, bah non.
Bon, d'accord,
bah non, c'est, okay. c'est influence japonaise, c'est pas influence chinoise.
Ok, d'accord. Trop tard du sport, la la la. On s'est déberdé sans toi. La galette de 12 cm vous est présentée. Je suis désolé, par Ultimatum.
Pas de jeu de mots foireux sur la galette de 12 cm. Donc Pacific Rim, effectivement, on l'avait déjà chroniqué au moment de sa sortie ciné. En plus d'Eddie, je sais pas si il y a eu d'autres intervenants, je ne me rappelle plus. Donc
Eddie, c'était un sacré bordel à l'antenne.
Oui, donc Guillermo del Toro oblige. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la sortie du Blu-ray, l'édition Blu-ray. Donc c'est une édition, vous l'avez le choix entre soit l'édition Blu-ray DVD, donc couplet, soit l'édition triple, Blu-ray 3D, Blu-ray et DVD. Donc c'est celle-là que je me suis procuré. Donc Pacific Rim, le dernier film de Guillermo del Toro. Donc ça a nécessité un petit retour sur ce film, au vu de la complexité du scénario bien sûr, mais vu la complexité du visuel et du background surtout, puisque oui, c'est pour les amateurs et ceux qui l'auront pas vu, c'est vraiment utile de voir cette édition, puisque Guillermo del Toro, il faut savoir que c'est un vrai artiste. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les à côté, il y a vous savez qu'il est dessinateur. Donc là, on a pas mal d'extraits de son carnet de dessin personnel. Et puis, il revient en long en large sur la fabrication du film et sur quelques anecdotes qui enrichissent justement le propos et l'histoire. Alors, on a donc une succession de témoignages. On a une série de featurettes qui va un peu au-delà de l'auto-promo dans le film contenant le disque contenant le film. Et il y a également un DVD ou un Blu-ray qui est spécialement consacré au bonus. Alors, on a une navigation à travers les extraits du carnet de dessin. Alors, soit on a des possibilités de zoom, soit il y a des traductions, puisque c'est quand même un réalisateur mexicain, donc il écrit en espagnol. Et donc, il y a des traductions qui sont proposées pour savoir quelles annotations il a mis à côté de ses dessins. Donc, c'est pas mal. On a également des liens vers des podcasts vidéo. Le seul petit bémol de cette édition, c'est que la version commentée du réalisateur n'est pas traduite. Alors c'est pour les anglophones, hein, bien sûr, donc ça c'est très dommage. Alors les anecdotes, alors je m'adresserai plutôt à ceux qui ont vu le film, sinon vous allez pas comprendre. Donc vous savez que dans le film il y a ce qu'on appelle le Shatterdome, donc ça c'est le QG géant où sont entreposés, c'est un entrepôt géant en fait, où sont conservés les Jaeger. Donc justement ce sont ces robots géants qui sont censés péter la gueule aux kaiju qui viennent nous envahir. Alors là on voit comment a été fabriqué ce fameux Shatterdome, donc c'est que des fonds verts, mais justement ils ont reconstitué une marche, la marche des héros en fait, puisqu'ils avaient un tout petit plateau, enfin un plateau assez grand mais beaucoup trop petit pour cette scène là, et puis ils ont reconstitué la marche en plusieurs étapes, donc ça c'est intéressant de voir comment ils ont fait. Le loup des Jaeger et des Kaiju Del Toro avait demandé expressément qu'ils ne soient pas inspirés de références. Donc il fallait tout créer de A à Z. Donc ça c'est vachement intéressant parce qu'il disait on s'inspire pas de tels monstres, puisque lui c'est un gros fan de kaiju, puisqu'il avait grandi avec les kaiju japonais, les kaiju Ega dans les années 60. Donc il a dit non, on se réfère pas du tout aux monstres japonais, on fait nos propres monstres et nos propres robots de A à Z. Donc là on voit qu'ils ont vachement bossé. Mais surtout la part du lion de ces bonus là, c'est tout ce qui est mise en scène et couleur. Donc il y a tout un discours autour de la couleur, puisque le héros
c'est vrai qu'il y a un travail monumental sur le grain de l'image.
Ouais, mais là je parle surtout de la couleur, puisque Raleigh, le héros américain, donc c'est sa couleur associée, c'est l'ambre, et justement la japonaise ils vont un peu fricoter ensemble, elle est associée au bleu, et justement il disait la couleur prépondérante qui est le sous-texte en fait, c'est chacun, à l'instar de la série animée Evangelion, en fait est en quête de quelque chose. Parce qu'au début du film il se passe quelque chose de pas cool pour Raleigh, il perd un être cher, et elle perd toute sa famille au début, c'est raconté dans des flashbacks, et donc à chaque fois c'est associé au rouge, ils ont perdu la moitié de leur cœur en fait, elle c'est symbolisé à travers une petite chaussure, puisque c'est tout ce qui reste de sa... elle a perdu une chaussure, et donc justement le pilote du Jaeger qui va la secourir, lui récupère sa chaussure, et la chaussure est de couleur rouge. Et au moment où ils entrent en résonance tous les deux pour piloter le Jaeger vers la fin du film, en fait, c'est la couleur est associée au rouge. Et justement, Raleigh va passer par une phase où il va se pardonner d'avoir perdu cet être cher au début, et il va faire un acte de courage pour sauver la japonaise. Et pendant toute cette scène, il y aura une couleur rouge qui sera associée à l'emergency dans le Jaeger. Donc ça, c'est vraiment un travail sur la couleur qui est très expliqué par le réalisateur. On a également, il nous raconte comment il a expressément demandé à ce que les décors soient filmés. Il a demandé à ce que les décors soient monochromes, et c'est la couleur de l'éclairage qui donne ce côté un peu comic book au film. Et donc c'est l'éclairage qui est sursaturé sur des décors qui sont plutôt grisonnants. Donc ça c'est, il a vraiment mis l'accent là-dessus. Alors je le répète, c'est une anecdote que j'avais aussi dont j'avais parlé pendant la sortie du film, c'est que il avait demandé pour la création du look des kaiju, des monstres, que malgré le côté un petit peu olé olé de ces monstres là, il soit que les concepteurs respectent le côté kaiju à l'ancienne, c'est que ce sont des designs qui auraient très bien pu être enfilés par des comédiens. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'ils soient anthropomorphiques, et qui est donc deux bras, deux jambes, pour que si on devait en faire des costumes, ce soit totalement enfilable. Donc évidemment pas de costume de dragon sans pattes, parce que là forcément un comédien n'aurait pas pu entrer dedans. Et sachant ça, c'est vrai qu'ils sont allés très loin dans les looks, mais on voit vraiment que c'est des costumes en puissance. Donc ça c'est un petit côté clin d'œil au monstre en latex qu'on connaissait avant, qui était un peu fait de briques et de brocs. Oui.
C'est peut-être aussi un clin d'œil aux fabricants de produits dérivés.
Ah ah, peut-être. Voilà, c'est pas dit comme ça dans les bonus, mais...
Ouais, mais bon.
Un pyjama pour les parents en forme de caillou pour terroriser les gamins. Non.
Donc il y a aussi un discours, on voit que tout est prévu à l'avance, par exemple le thème du cercle et du rond qui revient beaucoup dans le film, qui est associé à Raleigh. Le fait qu'il manipule le robot géant en tenant un rond virtuel dans la main, quand il est rappelé par le personnage joué par Idris Elba dans le film, parce qu'au début, à un moment donné, il est à la retraite, il est rappelé, et donc il y a une espèce de trône à moitié détruit sur la thématique visuelle du cercle qui est très présente également. Il parle aussi de l'aspect dominant du pilote dans les duos, puisque dans le film c'est un duo de pilotes qui contrôlent les robots et le pilote dominant est toujours placé à la droite du pilote qui est dominé. Donc ça, il raconte aussi l'ascension des pilotes par rapport à leur caractérisation dans le film. Ça, c'est super intéressant.
À la droite. Voilà.
À la droite du pilote qui est dominé. Donc le pilote dominant.
Ah mais oui, bien sûr, comme en auto-école.
Voilà. Ouais. Ah, c'est pas mal. Voilà, donc voilà, c'est extrêmement intéressant de voir tous ces bonus là. Donc moi personnellement, pour revenir à l'histoire, j'avais effectivement regretté que le scénario tienne sur un ticket de métro, mais c'était une volonté de Del Toro. Il disait que on balance en pleine poire au spectateur un nouveau concept, on lui raconte tout le background de l'histoire en 5 minutes au début, c'est archi complexe.
C'est,
donc il fallait que
c'est à la japonaise aussi, hein. C'est-à-dire les films japonais, vous avez 2 minutes d'introduction après le générique et on est directement dedans.
Voilà,
hein,
et puis après il a dit il fallait que les personnages soient des stéréotypes, il fallait qu'on comprenne en très très peu d'images qu'est-ce qui se passait. Bon voilà, c'est basique, hein. Le duo, le héros c'est un américain, sa copine c'est une japonaise, y a un côté un peu les rivaux comme dans Top Gun, bon bah c'est deux Australiens qui roulent des mécaniques aussi. Il a dit bon ben voilà, le look du Jaeger, du héros, ça devait être John Wayne avec une démarche de cow-boy. Bon voilà, on est dans le stéréotype. Les Russes, c'est de la technologie archaïque, ils sont super lourds, ils ont une tête d'obus nucléaire et tout. Bon ça c'est les Russes. Les Chinois, comme ils se multiplient beaucoup, et ben ils sont trois parce qu'ils sont plus nombreux. Bon ça c'est moi, hein, ça c'est pas.
Oui, j'ai eu peur.
Mais bon voilà.
Donc, surtout avec la musique lyrique derrière, puisque c'est inspiré hein, d'un dessin animé.
Evangelion. Ouais. Mais voilà, il y a pas mal de discours du réalisateur, notamment l'introduction, la présentation de la japonaise et du héros. C'est à travers de très jolis effets de mise en scène à travers un parapluie. Donc ça, quand on revoit la scène, c'est joliment bien fait. Bon voilà, on apprend plein de trucs. Donc Pacific Rim. Les fans du film, procurez-vous cette édition, vraiment, vous serez pas déçus. Donc c'est une édition triple, Blu-ray 3D, Blu-ray et DVD en 4D disque, puisqu'il y a un disque bonus.
Et du sport a eu le temps de fixer la plomberie de la radio, c'est dire s'il est fort.
Ah ouais, c'est vrai, il en reste encore.
Donc, littérature, suite de film.
Ouais, bah non, pas suite de film. Non, pas du tout.
Film,
c'est la suite du bouquin, en fait.
Qui a inspiré le film.
Alors, c'est de James Salis, donc, et ça s'appelle Driven. Alors, tous les gens qui ont l'habitude d'aller dans les librairies en ville, voire ou dans les espaces de vente culturelle, ont certainement vu le bouquin parce que il est survendu. Il y a le bandeau rouge et tout, nanana. Alors là, on a de la chance, on n'a pas. La gueule de Ryan Gosling en couverture, c'est normal, il n'a pas encore
mais
fait
attends,
le film.
Attends, rassure-moi, Driven, c'est bien le film avec Stallone sur la Formule 1.
Pas du tout, mais non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Où on retrouve donc notre fameux chauffeur. Eh oui.
Qui n'a pas de nom.
Non, c'est toujours le chauffeur, hein, de toute
chauffeur.
Façon. Quoi. Voilà, quoi. Alors, chez Salis, qui est vachement bien, c'est que on lit le bouquin, mais on est embarqué dans une espèce de poésie sous-jacente avec des passages qui sont carrément philosophiques qui sont là un petit peu pour remonter un petit peu le niveau, c'est-à-dire pour dire que le chauffeur c'est pas une simple brute qui est doué pour conduire des bagnoles, faire des casses et qui est vachement doué pour l'autodéfense aussi, ça on l'a vu dans le drive, hein, y a pas de problème, mais c'est également un type qui pense, qui a une vie intellectuelle et tout, et qui est capable de citer Nietzsche quoi, entre autres. Bon, pour dire quoi, voilà quoi, c'est un petit peu dans ce monde dans lequel on se balade. Je rappelle que James Salis est quand même le type qui est un spécialiste de Raymond Queneau. Il a traduit l'ensemble des œuvres de Raymond Queneau en anglais. Ça situe un petit peu le bonhomme. Et donc, on a des passages un petit peu surréalistes comme ça, des moments quoi qui sont tout à fait appréciables. Au début, je cite dans les films. Le type qui vient d'échapper à la noyade émerge sous le soleil avec un bond de marsouin et aspire goulûment l'air dont il a été si longtemps privé, le soulagement peint sur la figure. Quand le chauffeur avait refait surface pour la première fois, 6 ou 7 ans plus tôt, cela s'était passé ainsi, sauf que c'était en sens inverse. Le soleil, l'air, la liberté, son réflexe a été de replonger. Il préférait l'ombre, la sécurité, l'anonymat. Il en avait besoin, il n'envisageait même pas de vivre sans. Il avait 26 ans. Ça, c'est le début de Drive, en fait. C'est la situation dans laquelle il se trouve juste avant les péripéties de Drive. À la fin de Drive, je vous rappelle la scène finale, dans le parking, il poignarde le mec,
du
film et le bouquin. Mais enfin, c'est pratiquement la même chose au niveau de la fin, puisqu'il part après, quoi, dans le bouquin, mais on sait pas où. Hein, ok. Et là, c'est pareil. Bon, il est blessé. Il a réussi à tuer son adversaire.
Ouais, Bryan Cranston.
Non, pas Bryan Cranston, le mafieux qui justement. Le rendez-vous.
Le rendez-vous, le mafieux, c'est joué par Bryan Cranston.
Absolument pas. Bryan Cranston, c'est le type qui est son mentor dans Cascadeur, quoi, en fait.
Qui s'est
accoquiné avec les mecs de la mafia, dont Ron Perlman dans le premier, qui est le Big Tony. Hein, le juif italien.
Oui.
D'accord. Et Big Tony est donc le représentant de la mafia en Californie ou du côté de Phoenix, quoi, puisque c'est situé à Phoenix en Arizona, quoi, les deux bouquins. Enfin, la base principale. Mais c'est un type qui vient de New York spécialement pour dire ok, qu'est-ce que c'est ce bordel et tout. Et c'est lors de la restitution de la mallette qu'il y a ce fameux meurtre et donc la fin dans le film. Hein, je me rappelle pas. Plus par qui il est joué ce type, enfin bon, bref, et la scène est vachement longue et tout, c'est bien du Winding Refn et tout, avec les trucs au ralenti, fight et tout, quoi.
Oui, c'est un plan séquence où on pense qu'il est mort et puis un temps interminable.
Bon,
après,
là, il est pas mort. Il est pas mort, il est parti, il est revenu, quoi. Alors, le problème, c'est que ça démarre très très mal dès le départ, un petit peu comme dans le premier, c'est-à-dire dans le premier, dans Drive, on se rappelle qu'il arrive à trouver un petit peu l'amour par le biais de sa voisine, mais en fait, c'est le mec de sa voisine qui l'embrouille et qui le fait, qui le fait tomber, quoi. Hein, c'est ça, quoi, qui le fait tomber dans les embrouilles. Sans faire exprès, en plus, hein, vraiment, quoi, puisque bon, il était pratiquement prêt à se ranger, tout le truc, il avait trouvé, presque. Mais non, c'est pas le cas. Et là, dès le début, ça tourne très mal pour lui. C'est-à-dire que lui, s'était dit, ok, je me tasse et tout, je me suis fait un petit truc un petit peu ailleurs, je me suis fait oublier tranquille. Sauf que les mecs sont toujours après lui.
Ah, il reste encore des mafieux.
Et l'ensemble du bouquin, en fait, eh bien, ça va être la fuite. Ça va être la fuite, mais également l'enquête. Savoir qui le poursuit, pourquoi ils le poursuivent, parce que c'est pas simplement une bête histoire de mallette, hein, qu'on a dérobé ou de trucs comme ça. Il y a quelque chose d'autre, quoi. C'est pas possible que ce soit comme ça. Vu que, normalement, selon les codes d'honneur de la mafia et tout, le travail a été fait en amont, donc il devrait pas y avoir d'autres trucs. Et là, il va essayer de remonter un petit peu le fil. Et parallèlement, il y a d'autres types qui vont se mettre à le poursuivre, mais juste à le surveiller, quoi. Lui, il va pas faire le distinguo. Dès qu'il y a un type qui est un petit peu louche ou des mecs un peu louches, il y a pas de problème. On essaye de les éliminer.
Il le poursuit pas dans ce cas-là.
De les mettre hors d'état de nuire.
Quand tu poursuis quelqu'un, c'est pour l'attraper. Là, il le file, c'est tout.
Oui, il y en a qui le filent, mais il y en a d'autres qui cherchent à le descendre.
Ouais, bah,
et lui, au fur et à mesure, il va essayer de remonter un petit peu la file, mais il va pas trouver exactement ce qui se passe. Bref, on arrive à la fin du bouquin et on est pratiquement à la même chose qu'au début. C'est-à-dire que bon bah OK on peut dévoiler la fin, hein, c'est pas un voyage sur Batman. Non non, mais c'est pas un voyage, hein, c'est la suite de l'aventure du chauffeur, et bon bah on se dit que bon bah il y en aura peut-être un autre, quoi, de toute façon, quoi.
Il est temps pour lui que cela cesse.
Non non, parce que bon, moi ce que j'aime bien chez Salis, justement, quoi, c'est que dans ce genre, ben, il arrive à faire quelque chose de tout à fait original, de quelque chose de tout à fait différent, de légèrement poétique, comme je pourrais dire, hein, à certains moments, quoi. Et ça, c'est tout à fait appréciable. Le livre est comme le Drive, hein, très court, hein. Là, il fait 174 pages, tout mouillé, quoi. Donc, ça se lit vraiment très très facilement, très très vite, mais
parce que du sport,
vraiment très très appréciable.
C'est pour ça que le poids mouillé est important. Ouais.
Alors je répète, donc Driven de James Salis, c'est paru aux éditions Rivage Noir, hein, c'est la petite collection, les petits bouquins en souple.
C'est pour ça qu'il est mouillé.
Ouais. Allez, on parle de télé à présent.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Oui.
Alors les heureux possesseurs de bouquets OCS et tout ça, c'est-à-dire Canal, hein, Orange, quoi, les anciens Orange, quoi, eh bien vont pouvoir assister à une nouvelle série, adaptation d'une série anglaise, série américaine, mais avec le même acteur dans les trucs, dans les deux. Et ça a l'air d'être un polar assez intéressant. Ça s'appelle Low Winter Sun. C'est à partir de ce soir 20h40 sur OCS City. 10 épisodes de cette série avec deux flics qui ont l'air vraiment très très ripoux dès le départ. Mark Strong et Lenny James. Mark Strong qui joue déjà dans la version anglaise et là il rejoue dans la version américaine. Alors bon bah le début c'est pas compliqué. Une des premières scènes c'est les deux flics qui sont en train de noyer un mec dans un évier.
Parce que bon, c'est une occupation.
Il a l'air d'en connaître un petit peu trop. Alors on se dit bon bah OK, c'est cool, ça commence bien, c'est des flics ripoux, on va s'amuser, surtout que c'est Mark Strong. Donc c'est ce soir sur OCS City avec les deux premiers épisodes. Sinon vous aimez bien, vous les jeunes, vous faire des intégrales de House of Cards et de machin et de trucs de bidule.
Ah non, c'est exact.
Ce soir,
non,
Canal Plus série,
j'aime
vous
pas
propose
le binge looking, je peux pas.
Alors Canal Plus série, quoi, vous propose ce soir l'intégrale de Brown ou The Bridge, c'est-à-dire la série originale, quoi. Brown c'est suédois, Brown c'est danois et The Bridge c'est anglais. L'intégrale, donc les 10 épisodes ce soir à partir de 20h50 sur Canal Plus série avec Kim Bodnia, Susanna Eflin, me semble-t-il, s'appelle la nana, quoi. Kim Bodnia, c'est le héros de Pusher, le premier Pusher 1. D'accord. Sinon,
d'accord.
As-tu jeté un coup d'œil sur Broadchurch?
Oui.
Alors.
La claque,
alors, l'énorme
rien
claque.
Rien que pour dire, point de vue claque, 7 millions. Téléspectateurs en France.
Ils ont niqué Joséphine Ange Gardien.
Au même moment, avait un épisode inédit, 5,5. Et ça fait plaisir, alors, honnêtement.
Au-delà de la qualité.
Alors moi, je dirais pas ça parce que bon, on peut pas dire, enfin, on peut pas parler comme ça, je veux dire. Ça reste un divertissement pour certaines personnes. C'est ce que c'est et c'est tout, quoi.
Ça reste petit. Pardon.
Ouais, bon, bah, pff, ouais, bon, ok.
Non, mais je veux dire comment ça se fait que machin ait battu.
Tout simplement, alors, le battage publicitaire.
Battage publicitaire énorme avant. Hein, et puis, sur toutes les chaînes de France Télé.
Et David Tennant. Et pas le seul acteur de Doctor Who dedans.
Oui,
d'ailleurs.
Mais David Tennant, ça parle à ceux qui ont vu Doctor Who, ça reste quand même
non, pas
confidentiel
que, hein.
Par rapport à Joséphine.
Non, pas que, parce que à côté de David Tennant, t'as également Sarah Coleman, qui est énorme.
Mais
quoi.
Elle est incroyable. Hein.
Qui est énorme. Et les autres acteurs hein, et actrices, même les gamins, quoi.
Ils sont.
C'est assez époustouflant, quoi.
Et c'est vraiment, c'est une réalisation qui est tellement léchée que tu pourrais manger dedans, tellement c'est cinématographique.
Ouais, mais ça répond pas à la question parce que quand tu es devant la chaîne, tu le vois que c'est du bon programme. Mais qu'est-ce qui a amené les gens à regarder ça à la base par rapport à Joséphine? Parce qu'il y a le battage médiatique, ok. Mais Joséphine, ça reste une institution en France.
Oui, mais je pense que les gens n'ont pas quitté Joséphine pour aller voir autre chose. Je pense que ceux qui regardent ça,
d'accord, c'est des gens qui regardaient pas Joséphine de toute façon.
C'est que de toute façon, il y avait une il y avait pas une belle offre sur à part Arte et France 3 le dimanche. Il y a pas une belle offre sur les séries européennes.
C'est le lundi.
Non, c'est le dimanche sur la 3.
Et non, mais Broadchurch, ça passe le lundi.
Oui, mais là, tout d'un coup, il y a une belle offre. En plus, il y avait le lead-in, hein, entre guillemets. C'est-à-dire, ce qu'il y avait les semaines précédentes, Castle, ça marche plutôt bien. Mais là, tout d'un coup, on a un polar qui est sérieux avec un David Tennant qui faisait vraiment penser, d'ailleurs, c'est étonnant, comment il s'appelle, celui qui jouait Mulder. Le côté.
David Duchovny,
avec le côté chien battu et tout ça. Et en même temps, ce qui est très impressionnant, c'est que c'est une série qui est diffusée sur une chaîne privée anglaise, ITV, qui normalement met des pubs au milieu. Et là, on a une rythmique très lente. Normalement, quand on fait un programme pour une chaîne où on passe de la pub au milieu, ben, il faut que... on vous en donne un pulse et on vous monte à un niveau d'action, à un suspense au plein milieu. Et puis là, franchement, on joue avec l'intelligence. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui fait un petit mouvement, ou bien on voit un skate dans un coin. Moi, franchement, j'étais scotché. Le gros problème, c'est le binge-watching de France 2. Trois à la fois. Ouais. Non, beaucoup trop.
C'est-à-dire que, ils ont balancé le truc et certainement qu'ils n'ont pas cru vraiment au succès. C'est-à-dire ils se sont dit on va le faire, on va bastonner, pas de problème et tout, mais ils se sont dit ouais mais enfin bon, on va pas faire comme on a fait avec Castle, où au bout d'un moment ils se sont rendu compte que passer juste un épisode inédit par semaine, ça fidélisait le public sur le lundi soir. Ils ont mis du temps, des années
avant de le commencer.
Enfin bon, voilà quoi, on sait que les autres chaînes font pareil maintenant quoi. M6 quoi passe plus que deux épisodes de Elementary le vendredi soir, plus
deux
un épisode à Wi-Fi Vo le samedi, inédit quoi. Donc
non, inédit, deux de la saison précédente et d'une des trois premières saisons. Alors
non, mais
attention,
ça c'est habituel, ça c'est
tout le monde
là,
en France.
Il y a je sais pas quoi. Bon parce que bon, ça alors on aurait fait des lundis quoi, il y a pas de problème, mais ma raison de deux, ça faisait quatre lundis, ça faisait le mois complet quoi, c'était pas mal quand même. Alors que les trois, c'est quand même limite quoi. C'est vrai que si qualitativement ça ne tenait pas la route, eh bien les trois à la suite, il y aurait plein de gens qui auraient largué à partir de la moitié du second sans problème.
Mais là c'est vraiment intéressant, c'est parce que il y a quelques personnages principaux, mais il y a un nombre de personnages secondaires, il y a une palette, il y en a un nombre absolument stupéfiant, et ça y joue à mon sens.
Si tu veux, paradoxalement, c'est pas une série qui renouvelle le genre. Au niveau au genre policier, il y a les trucs qu'on connaît, qu'on a l'habitude. Si vous regardez les séries anglaises, les séries un petit peu comme ça,
nordiques,
on va dire campagnardes, on va dire pas urbaines, ou nordiques, de temps en temps c'est pareil quoi, disons bon, ça renouvelle pas tellement le genre, ça va pas chercher dans le trop gore, on va dire, mais bon, c'est quand même un peu dur. Mais bon, ça fonctionne parce que c'est une mécanique qui est vraiment bien ficelée. Moi je te dis franchement, je pense savoir qui c'est dès le troisième épisode.
Ouais, il y en a un qui l'a balancé. Je suis un petit peu furieux, donc.
On n'en dira pas plus. Alors,
on n'en dira pas plus. Ça
trois
vaut
épisodes de nouveau lundi. Quoi,
vous avez le week-end pour le regarder sur le replay sur la 2 en VO. Encore une fois en VO.
Oui. Et puis bon, t'as vu, ils ont un accent ok. Ils sont pas du sud de l'Angleterre.
Bon, c'est une blague dans Doctor Who à chaque fois. On dit, mais c'est bizarre, vous avez un accent du nord. Il y a toujours un nord quelque part dans l'univers. Et là, David Tennant, il joue sur son accent du nord, puisqu'il vient d'une autre affaire et il souffle la promotion d'une autre inspectrice qui lui en veut. Ça envoie vraiment, en tout cas, grand moment et vraiment agréable.
Ok, maintenant des films.
Tout plein.
Alors donc ce soir, je vous rappelle, Low Winter Sun, c'est sur OCS City, une nouvelle série qui démarre.
Ouais.
Alors c'est basé à Detroit City, la ville qui en est cessation de paiement.
Presque.
Donc ça peut le faire quoi. Sinon ce soir également sur Ciné Plus Classique, La Planète des Vampires, c'est carrément Space Hop et film de vampire. C'est de Mario Bava en 65 avec Barry Sullivan et Norma Bergel.
L'un des films qui a inspiré Alien.
Ouais.
Ah. Oui. Ah.
Eh ouais.
Ok.
OCS Choc, toujours ce soir à 23h30, le Scanners de Cronenberg.
Excellent.
En 80.
Et c'est ce dégommage de tête qui reste encore célèbre.
Et
Michael Ironside, excellent.
Oui.
J'ai pas eu le temps de mettre le macaron, tu préviens la prochaine fois que tu fais une scène interdite aux moins de 12 ans. Hein.
Ah pardon.
Non mais c'est bon là. Sur TCM ce soir à 22h15, Adieu ma belle d'Edouard Mintrick en 44. Adieu ma jolie, hein, c'est... en fait c'est ça quoi. Il y a eu des remakes qui ont été faits après. Là c'est la version avec Dick Powell et Mike Mazursky. FX vous propose ce soir à 20h50 Komodo versus Cobra de Jim Wynorski. On avait l'habitude de le voir sur FX, mais là ça sur Sci-Fi, pardon, là ça passe sur FX avec Michael Paré et Michel Bort. Ah oui. Et sur Action, également, un bon film du samedi soir à 20h50, Special Force USA d'Isaac Fiorentin. Isaac Fiorentin, c'est un mec qui a fait également quelques JCVD, il en a fait deux ou trois dans la période des années 2000, quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire,
vidéo,
DTV.
Ouais.
Voilà, celui-là date de 2003 avec Marshall Tigg et Scott Adkins.
Pour quelques patanes de plus. Ouais.
Scott Adkins. Hein.
Scott Adkins. ouais. Alors c'est des soldats en Yougoslavie, des soldats américains en Yougoslavie pendant la guerre des Balkans. Voilà. Demain sur Sci-Fi à 20h45, soirée requin avec tout d'abord à 20h45 le Shark Attack 2 de David Worth.
Chaque fois que tu vas dire le mot requin, je le balance celui-là.
Ouais. Avec Nikita Hager, Caroline Bruns, suivi du cultissime Sharknado à 22h25. Avec Yann Ziering et Tara Reid. Demain également sur Signe Plus Frisson. Bonne soirée, bière, pizza, avec tout d'abord, on en parlait juste avant, à 20h45, Drive, donc le film de Winding Refn, suivi du 22h25 de Machete.
C'est une bonne thématique, ça.
On y va doucement problème, et puis chop chop.
Voilà. Ou alors, pour les plus pervers, sur Polar demain soir à 20h50, Action Jackson, le retour. Ça faisait longtemps, ça faisait des années. Ça faisait vraiment des années.
Ouais, c'est clair.
Hein, toujours donc avec Carl Weathers, Craig T. Nelson et Sharon Stone, ainsi que Vanity, bien sûr. Ou sur Action, carrément, demain à 20h50, Excalibur.
Ah, très bien.
Ouais.
John Boorman. Ensuite, lundi.
Non, ça, c'est les Valkyries, ça.
Oui, mais alors, c'est vrai que tu as les Valkyries.
Je ne pense pas qu'il y ait dedans.
Lundi, la semaine prochaine, sur Canal Plus Cinéma, chaque jour de la semaine prochaine, sur Canal Plus Cinéma, en prime time, un film avec Mads Mikkelsen. Ça commence donc lundi à 20h50 par le film Exit, un film suédois de Peter Lindmark de 2006 avec Mads Mikkelsen, donc Alexander Skarsgård, Samuel Fowler, un thriller qui, paraît-il, est assez intéressant. Sur Arte, toujours lundi, deux films résolument anti-guerre. Tout d'abord, à 20h50, Le Capitaine Conan de Tavernier. Avec là, vraiment, le film est très très bien, moi je trouve. Hein, les acteurs sont bons, le sujet est excellent. Avec Toretton, Le Bihan, Bernard Lecoq, Claude Rich, enfin bon, mais vraiment, ça vaut le coup.
C'est l'histoire de quelqu'un qui revient de la guerre, qui revient dans son village, mais on ne sait pas si c'est vraiment lui.
Non, mais c'est tiré d'un bouquin, d'une histoire vraie, quoi, de toute façon, quoi. Suivi de Johnny Got His Gun ou Johnny S'en Va Tinker, le film de Dalton Trumbo, donc avec Timothy Bottoms, Kathy Fields, Jason Robards, Donna Sutherland.
Il y a tout un cycle, en fait, il faut expliquer. Diffusé par Arte le lundi en ce moment sur la guerre de 14 pendant le cadre du centenaire.
Ensuite, sur D8 à 22h35, lundi, Blitz, un film anglais de Elliot Lester avec Jason Statham, Aidan Gillen, David Morrissey, Jason Statham, bien sûr. Ou sur TF6 à 20h50, Ultime Menace, Simon Fellows avec JCVD et Julie Cox. Bon, pas terrible, terrible et tout, quoi, parce que là, c'est un espèce de soldat, unité d'élite, et puis ils doivent descendre une ambassade dans un pays de l'Est. Enfin, ils sont assiégés. Enfin,
Serait là, il nous dirait, oh là, il y en a marre de ces films d'action dans les films de l'Est avec ces filtres gris vert.
Voilà, exactement. T'as tout compris. T'as tout compris. Qui tire un peu sur le jaune.
Voilà. Et libéré.
Lundi toujours sur Action à 20h50, là c'est un excellent western, The Trail of the Lonesome Pine.
Ouais, le chemin du pin solitaire,
traduit par La fille du bois maudit, mais ça reste quand même un excellent film de Hori Hathaway.
Vous auriez vu la tête de Thomas
avec Fred McMurray, Henry Fonda et Sylvia Sidney. En fait, c'est un western, mais pas vraiment. C'est plus une vue sur l'évolution. Ça, j'avais déjà sorti sur un autre film il n'y a pas si longtemps que ça. Mais là, les traditions contre le modernisme, vu que c'est des cow-boys qui voient arriver dans leur coin le chemin de fer. Ah ouais, eh ouais. Donc, d'où conflit. C'est sur Action, donc c'est à partir de, c'est lundi soir à 20h50. Alors, Henry Hathaway, quand même, c'est le mec qui a commencé sa carrière par faire que des westerns en 1933, six westerns en 1934. À l'époque, ça cartonnait, hein, mais c'était les formats qui faisaient 1h, 1h10, trucs comme ça, quoi.
C'était les trucs qui étaient faits pour rester pas plus d'une semaine, hein.
Enfin, plus d'une semaine, c'est-à-dire, ça tournait, quoi, mais
ça
bon.
Ça tournait énormément, ouais.
Ok, quoi, c'était à l'appel. Mais par contre, en 35, il nous sort les trois lanciers du Bengale. Alors là, déjà, on se dit, ah ouais, cool. 47, il nous fait Kiss of Death, le carrefour de la mort. Alors là, bon, on se dit, avec Widmark, excellent dedans. Il nous fait également, il revient au western à la fin de sa carrière. En 66, Nevada Smith avec Steve McQueen. En 69, True Grit, l'original. Bon, Henry Hathaway, quoi, tu vois. Donc, c'est lundi soir, La fille du bois maudit, sur Action. Mardi, sur Canal Plus Cinéma, Pusher 2, Du sang sur les mains. Ouais, c'est celui-là qu'il faut prendre si tu veux voir Mads en long, en large et en travers et complètement à poil. C'est clair que c'est celui-là qu'il faut prendre.
Mademoiselle.
Par contre, c'est un petit peu, c'est un peu dur, quoi, hein. Il faut dire ce qu'il
y a.
Oh non! Quand même.
À poil, bon merde. Zut.
Non, allez. non, mais c'est un peu dur. Ouais.
Je m'inquiétais.
Le sujet, d'accord.
Je m'inquiétais là.
Ok. Alors ça, c'est Canal Plus Cinéma mardi
point
soir.
Sur moi, comme
sur Ciné FX mardi toujours l'excellent The Wicker Man de Robin Hardy avec Edward Woodward, l'Equalizer et Christopher Lee, ainsi que Britt Ekland, bien sûr, hein, plastique avantageuse. Mercredi sur Canal Plus Cinéma, The Door, la porte du passé d'un au sol avec Mads Mikkelsen. Je vous en avais parlé quand il était passé sur FX, me semble-t-il.
Le futur où il se retrouve dans le passé face à lui-même.
Voilà, ouais. C'est ça, quoi. Puisque bon, et la perte de l'enfant, donc si je peux retourner dans le passé, est-ce que je peux rattraper le truc?
Tu vois,
tout.
On t'écoute, hein.
Mais c'est un petit film, hein, vraiment fait avec 4 bouts de ficelle, il n'y a pas d'effets spéciaux, enfin, c'est. C'est vraiment très cheap, mais c'est vachement bien fait.
Et c'est quand, c'est où?
Et c'est donc mercredi sur Canal Plus Cinéma. Donc The Door, La Porte du Passé, Mads Mikkelsen, Jessica Schwartz, Ike Makatch. C'est un film allemand, hein, donc, alors que Hannes Sol est un réalisateur suédois, me semble-t-il, parce que après il a fait pas mal il a réalisé pas mal d'épisodes des enquêtes du commissaire Enders, qui est une série suédoise. Mercredi toujours, alors sur RTL9, ça fait du bien qu'il te le passe dans l'ordre, donc on va en profiter, on va le citer. La série des Pitch Black, d'abord Pitch Black et ensuite Riddick Chronicle, dans la même soirée. Bon,
pour
okay,
une fois
pas
dans
mal.
L'ordre.
Oui, pour une fois
passé.
Dans l'ordre. Non, mais c'est
qu'est-ce
pour
qui
ça
s'est
que
passé
je
chez RTL9
je sais pas. Sur D17, alors là, c'est une soirée Wesley Snipes, mais c'est pas du tout dans l'ordre, on s'en fout de toute façon. 20h50, Appel au meurtre de Carrie Skoglund avec Wesley Snipes, Linda Fiorentino et Art Bochner. Et à 22h35, Middleman 2 et avec Mario Van Peebles, Wesley Snipes et Cybill Shepherd. T'as vu ce casting?
Ouais.
Ah. AB1, mercredi.
Si tu te souviens du Nouvel Hollywood, tu dois savoir qui c'est.
AB1 vous propose mercredi prochain à 20h40 Dragon Storm de Griff First avec Maxwell Caulfield et Richard Wharton, un film de Moyen-Âge où t'as carrément des dragons qui arrivent de l'espace, quoi.
Trop bien.
sur OCS géant, là c'est une excellente soirée western avec deux grands classiques, hein, quand même. À 20h40, c'est L'Homme de la Plaine de Anthony Mann avec James Stewart, Arthur Kennedy. Et à 20h20, à l'ombre des potences de Nicolas Ray avec James Cagney, John Derek et Vivica Lynn Ford. Jeudi sur Canal Plus Cinéma, Royal Affair, donc le film de Nikolaï Arcel qui avait été nommé aux Oscars, hein, comme meilleur film étranger et tout, quoi. Le film de Matt avec Mads Mikkelsen et Vikander, toute la bande, quoi. Bon film, hein, film de costume et tout, quoi. Sur RTL9 à 22h35 jeudi prochain, Driven. Le film de Rennie Harlin.
Ben voilà, Olivier.
Ouais, les deux dans la semaine.
Stallone qui fait 120 kilos, qui va dans un cockpit de Formule 1.
Ouais,
trop bien.
Ouais. On le croit. On le croit. Sur des 17 de jeudi prochain, 22h35, Killer Shark de Griff Firth, encore lui, avec Christy Swanson, Choupette, la première Buffy.
Non, non, il m'a eu, là.
Et également D.B. Sweeney. Mais c'est précédé par un autre film qui s'appelle Alerte aux requins, de Bob Mizirowski. Avec Jenny McShane, Casper Van Dien. Et Bethlehem Mitchum. Alors celui-là, je l'ai vu, et franchement, les requins, tu les vois pas trop.
T'es déçu,
mais par
hein
contre,
ah, t'es déçu.
Non, non, parce que t'as une aventure entre Casper Van Dien et Julie McShane et tout, quoi, qui est assez sympa et tout, parce que bon, ils sont ensemble, mais ils sont séparés.
Ah, ils se remettent ensemble. Ouais, alors,
merci voilà. Les gossips, merci, merci.
Comment les gossips, quoi?
Gossip.
Ok, ok.
Je me redonnais du micro d'ordre.
Des 17, donc. Sinon, sur Sci-Fi, jeudi prochain, il y a également Tornado Apocalypse de Jeffrey Scott Lando. Avec David Chokaki. Avec David Chokaki. Eh oui, eh oui. Alors, pour terminer, jeudi prochain, ah ouais, quand même, sur Paramount Channel, Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, Sunset Boulevard. Magnifique, excellent, c'est un des monuments du cinéma, c'est un film qui parle du cinéma, qui se c'est énorme quoi, c'est énorme. Et une des répliques de Gloria Swanson dans le film quoi, c'est moi je suis toujours grande, c'est les films qui sont devenus petits. C'est énorme quoi, tu vois, de la vieille actrice et tout, du muet, mais plus personne ne fait appel à elle parce que bon bah on est dans le parlant et tout le bordel et tout quoi. Et puis bon, elle reste dans son monde figée comme ça. C'est excellent, excellent quoi. Avec donc William Holden, Gloria Swanson, vraiment c'est un des monuments du cinéma à voir absolument. C'est donc jeudi prochain sur Paramount Channel, Sunset Boulevard. Boulevard du Crépuscule si vous préférez. Vendredi, on termine donc à Canal Plus Cinéma qui vous propose La Chasse de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen. Donc, je vous en avais parlé de ce film excellent, vraiment très très bien. C'est du Vinterberg, alors c'est
oui,
sûr quoi, il n'y a pas beaucoup de bastons, de trucs.
De
une affaire de bruit qui court. C'est comme ça qu'on pourrait. Et bon, bah ça se termine.
Allez,
pas mal.
Ouais.
Parce qu'on sait pas comment ça se termine vraiment.
Ah, bien, bien retourné.
Tu vois, c'est ça le truc. La fin peut te faire voir plusieurs solutions sans problème. Alors, donc c'est vendredi prochain. Sinon, sur RTL9, Mort subite de Peter Iams, JCVD et Powers Boost.
Très bien pendant Sochi, ça.
Ouais. Sinon.
Studio hockey sur glace.
Sinon, Ciné Frisson à 20h45, Time Out de Andrew Niccol, pas mal, avec Timberlake, Cillian Murphy.
Ah ouais, je l'avais raté celui-là, mais je voulais le voir.
Il est pas mal, franchement, c'est pas mal, c'est sympa, quoi. Bon, et pour terminer en beauté, c'est le retour également sur FX à 21h, vendredi prochain, de Barb Wire.
Ben voilà,
obligé, quoi. Il termine généralement avec un péplum. Là, ça revient au même parce que c'est également bien rebondi.
Bien, j'ai des gros lodos, ouais. De blondasse. Non, je suis désolé. C'est le supplément week-end numéro 376, 13h42. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour un bonus. Et point de vue bonus, tiens, on a parlé tout à l'heure de Batman. Et d'un Batman moderne avec un Joker terroriste. Et il y a eu dans les années 80 une œuvre vraiment originelle qui a vraiment relancé Batman, c'est The Dark Knight Returns de Frank Miller. À l'intérieur, Frank Miller donne le visage, donne un Bruce Wayne en fait qui a la cinquantaine, soixantaine, qui est moustachu et qui s'est rangé des caisses. Il lui a donné le visage de Clint Eastwood. À l'époque, Clint Eastwood n'avait pas commencé à faire des films crépusculaires, on est en 87, mais il avait commencé à donner déjà l'aspect d'un Dirty Harry soixantenaire. C'est justement le look que va lui donner Frank Miller là-dedans. Le président des États-Unis, lui, est un Ronald Reagan, qui à l'époque était encore président, mais déjà bien grabataire, sauf que là, il se drape du drapeau américain, du Star Spangled Banner. Si vous ne connaissez pas l'œuvre, ça n'a rien à voir avec le film du même nom. Et ma foi, c'est le final. Mon Dieu, Thomas, il y en a qui nous écoutent en long, en large, en travers dans l'émission, qui arrivent dans le stream en cours de voire qui zappent à la fin du podcast uniquement pour avoir le bonus. Mais qu'est-ce qu'ils ont loupé?
Eh ben, ils ont loupé entre autres un JCVD en blues, du violon, un sniper, des zombies qui font des ailes de pigeon, de la photo solarisée, une galette de gros machin, du Stallone en bouquin tout mouillé, le livre, pas Stallone, du barbu en gros paquet, du bois maudit solitaire, du mats à poil et en dur, du dragon de l'espace, des tornades, plein de requins. Un film qui on sait pas comment ça se termine et un final bien rebondi.
Nom d'une actrice à grosse loloche. Vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi réécouter les précédentes, farfouiller dans Chronique écrite, laisser vos commentaires, n'hésitez pas.
Oui, farfouiller, écrire, on attend que ça.
Écrire au courrier des audilecteurs et insulter Morgan qui s'est défilé pour sa chronique des trois fers numéro 2. Posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplementweekend.fr, sans accent ni tiré, supplementweekend.fr. Et vous écoutez FMR sur 89,1 mégacycle en modulation de fréquence analogique. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, ma foi,
il sera question pour ma part de guerre des gangs.
De mon côté, sauf erreur, je crois qu'on aura un polar à l'air Facebook.
Ah.
Et du sang, qu'est-ce que tu as ?
Il y aura probablement un autre bouquin, le seul livre écrit par un des très grands réalisateurs allemands du cinéma.
Ok.
Il n'y a pas eu. Ouais,
il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Vous écoutez FMR, donc nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci d'être à notre écoute. Et en tout cas, n'hésitez pas, écrivez-nous. Ciao, bye bye. Du sport, je prépare ton générique ou...
Non, attends, je commence à 2h, moi.
Oh, tu commences à 2h avec la pro musicale. Ouais, on vous fait la pro en temps réel.